L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Êtes-vous prêt maintenant à aller dans la parole de Dieu? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dieu est bon. J'aimerais ça vous inviter. Venez avec moi dans Genèse chapitre 1 et le verset 14. Amen. On va pencher nos têtes. Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, ce matin. On te remercie, Seigneur Dieu. On te remercie, Seigneur, pour ta parole, qui est une parole qui est vraie, qui est la vérité. On te remercie, Seigneur Dieu, parce qu'on peut te faire totalement confiance. Tu es un Dieu tellement exact. Ta parole s'accomplit parfaitement. Et on te remercie, Seigneur Dieu, parce qu'aujourd'hui, on peut se tenir devant cette parole et recevoir de toi des réma, des révélations personnelles, des révélations pour nos vies. Merci parce que tu protèges ton peuple par la proclamation de ta parole. Et aujourd'hui, on reçoit de toi, on reçoit des révélations par ton Saint-Esprit qui est ici parmi nous. On te remercie à l'avance pour les choses qu'on va recevoir. On a prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dans Genèse chapitre 1, et le verset 14, il est écrit, « Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. » Et puis ce texte-là, en hébreu, le mot « époque », c'est le mot « moed » qui nous parle vraiment des temps marqués de Dieu. Et puis on peut lire ce texte-là tout simplement et dire « oui, on comprend, ici, je vais relire, qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques comme les saisons. » Et on peut lire ça et s'imaginer, ici qu'on parle simplement de saisons, mais en fait, on parle d'époque. Et puis le peuple juif, comme vous savez, sont vraiment sensibles et puis elles se préoccupent des astres. Ils se préoccupent de la réalité des astres. En fait, même la fête des trompettes ne peut pas commencer avant que la lune soit discernée dans le ciel. Donc, on sait que le peuple d'Israël, c'est un peuple qui est vraiment concerné par la réalité des astres et tout ça. On comprend donc, on parle ici d'astronomie et non l'astrologie. Il y a une différence, n'est-ce pas? L'astrologie, c'est quelque chose qui est défendu dans la parole de Dieu parce que les gens placent leur foi dans ces choses-là pour leur direction personnelle. Mais la Bible nous dit que nous, les enfants de Dieu, nous sommes dirigés par l'Esprit de Dieu et non par votre date d'anniversaire et ces choses semblables. Mais ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est simplement comprendre que Dieu parle encore aujourd'hui. Il nous parle par sa parole. Amen. Mais aussi, Dieu nous parle par les signes que nous voyons autour de nous. Et si Dieu a choisi de nous parler, devrions-nous écouter? Amen. Nous devrions écouter. Donc, ce matin, le sujet de cette prédication, c'est le bateau de la révélation. Le bateau de la révélation. Et vous allez voir au fur et à mesure comment on va procéder. Vous allez voir avec moi pourquoi on appelait le texte ou le message le bateau de la révélation. Mais première chose qu'on voulait voir, c'est que Dieu parle par des signes. Et dans Ésaïe 46 et le verset 10, dans Ésaïe chapitre 46 et le verset 10, il est écrit, « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. » Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Donc, Dieu nous dit ici, j'annonce dès le commandement ce qui doit arriver. Vous savez, Dieu habite en dehors du temps. Pour nous, ce que nous comprenons, c'est que nous avons une date de naissance et une date de décès, n'est-ce pas? Dans le monde dans lequel nous vivons, c'est comme ça qu'on comprend la vie. Mais pour Dieu, Dieu est totalement différent. Dieu n'a pas de début. C'est pour ça que nous l'appelons l'Éternel. Dieu n'a pas de date d'anniversaire. Dieu a toujours existé. En fait, le Dieu de la Bible a toujours existé. Et quand on essaie de comprendre la grandeur de notre Dieu avec notre cerveau, on va avoir beaucoup de difficultés parce que c'est impossible pour nous de saisir la grandeur de notre Dieu avec l'intellect. Donc, on doit s'approcher de la parole de Dieu et de cette révélation avec foi. Amen. Donc, nous servons un Dieu que nous ne pouvons pas certainement comprendre à 100%, sauf nous pouvons le recevoir dans notre vie avec foi. Mais comprenez-vous que Dieu a toujours existé? Humainement, pouvez-vous comprendre ça? Dieu a toujours existé. Non, moi, je ne comprends pas ça, mais je crois que c'est la vérité parce que Dieu le dit. Amen? Et puis, Dieu habite en dehors du temps. Nous, on est limité par le temps. Date de naissance, date de décès. On comprend, c'est comme ça. Il y a hier et demain. On est en train de se définir par le temps. Mais Dieu, notre Dieu, ne se définit pas par le temps. Il est l'Éternel. Et puis il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Notre Dieu connaît toutes choses parce que Dieu est en dehors du temps. Et pour nous, on peut penser à l'avenir, mais pour Dieu, lui, il connaît déjà tout ce qui va se passer à l'avance. Donc, si vous connaissez Dieu et si vous prenez le temps de méditer la parole de Dieu, vous aussi, vous allez découvrir des choses avant que les choses se réalisent vraiment. Et puis, c'est ça, c'est une bénédiction qu'on a d'être un enfant de Dieu. Vous savez, quand j'étais plus jeune, on disait toutes sortes de choses concernant l'avenir. Et puis, je suis béni aujourd'hui parce que je peux vous dire, j'ai vu plein de choses se réaliser. Même tout au long de ma vie, je vois des prophéties qui ont été prophétisées, des paroles de Dieu qui ont été prophétisées et aujourd'hui, on les voit s'accomplir. Donc, on peut vraiment voir ce que Dieu a dit s'accomplir et notre Dieu, c'est un Dieu qui dit la vérité. Amen. Amen. Et dans Amos 3, le verset 7, il est écrit « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Ici, on voit dans l'Ancienne Alliance, Dieu parlait toujours et puis il annonçait des choses à ses prophètes. Vous croyez ça? Donc, si nous avons la parole de Dieu, nous savons que Dieu se révélait bien à l'avance. L'Ancien Testament nous parle « Un jour, le Messie va venir. » Et dans le Nouveau Testament, ce que nous retrouvons, le Messie est arrivé. Gloire à Dieu. Et nous connaissons son nom est Jésus. Amen. Donc, c'est merveilleux. Dieu connaît toutes choses. Et puis, si vous êtes ici ce matin et si vous voulez entendre un message à partir de la parole de Dieu, vous croyez que ce livre, c'est un livre qui a des révélations pertinentes et vous croyez en même temps que notre Dieu dit la vérité. Et puis, vous savez, ce qui compte, c'est pas ce que Joel Spinks dit. Ce qui compte, c'est ce que Dieu dit. Amen. Et puis, moi, je trouve ça merveilleux d'avoir la parole de Dieu entre nos mains pour pouvoir l'étudier, pour comprendre même les jours dans lesquels nous vivons, pour comprendre vraiment le sens des jours dans lesquels nous vivons. Donc, une des choses que je veux juste établir au tout début, notre Dieu connaît toutes choses. Vous êtes d'accord? Notre Dieu connaît toutes choses. Dieu n'est jamais surpris par un événement. Si vous écoutez les nouvelles et puis vous voyez des choses qui se passent, peut-être cette semaine, vous avez été surpris par le dénouement de certaines choses, bien, Dieu n'était pas surpris, Dieu savait toutes choses à l'avance. Et aussi, venez maintenant avec moi dans l'Apocalypse chapitre 1 et le verset 3. On va aller dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse chapitre 1 et le verset 3. Je peux vous dire, il y a des gens qui ont peur de lire l'Apocalypse. Il y a plusieurs personnes qui ont peur, beaucoup de chrétiens même, parce qu'ils se disent, moi je suis pas compétent pour vraiment interpréter ce livre. Ce livre-là est tellement compliqué, comment puis-je vraiment l'interpréter? Comment puis-je vraiment comprendre ce livre-là? Mais pourtant, vous savez, moi je crois que l'ennemi veut faire peur. L'ennemi veut nous faire peur, il veut nous empêcher de lire ce livre-là, parce que, vous allez voir une chose ici, dans Apocalypse 1, verset 3, il est écrit, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. » Remarquez, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. » Donc, c'est rare qu'on s'approche du livre de l'Apocalypse et on se dit, « Mais là, je vais lire ça et je vais être heureux en lisant ce texte. » C'est rare. Et moi, j'ai goût d'aller lire l'Apocalypse parce que je vais être heureux aujourd'hui. Mais pourtant, c'est la parole de Dieu. Pourtant. Et vous savez, en anglais, dans ma Bible, King James, ça dit « blessed, blessed, béni ». Si on lit le livre de l'Apocalypse, nous serons bénis, nous serons heureux. Et je pourrais vous demander la question, combien d'entre vous, vous lisez l'Apocalypse quand vous avez le goût d'avoir la joie ou la bénédiction? Peut-être, c'est pas votre cas. C'est plutôt un livre qui reste inlu ou qu'on n'a pas vraiment étudié pour la majorité des chrétiens parce que plusieurs chrétiens ont peur de ce livre-là. Remarquez, ça ne dit pas « peureux est celui qui lit », ceux qui entendent les paroles de la prophétie, mais ça dit « heureux », pas « peureux », mais « heureux ». Pourquoi? Parce que quand on découvre ce que la Bible nous dit, ce que l'Apocalypse nous dit concernant notre avenir, on va être rempli de joie parce que ce que Dieu en réserve pour ses enfants, c'est la bénédiction, la protection et puis la délivrance totale de toutes les œuvres du diable. Donc moi, je peux lire le livre de l'Apocalypse et me réjouir. Amen. Donc, on voit ici que Dieu nous a donné une révélation dans l'Apocalypse et en fait, la révélation nous vient du Seigneur Jésus à son serviteur Jean. Donc, une des choses, des fois dans le monde chrétien, on a du mal à lire l'Apocalypse, par exemple, parce qu'on a peur. On a peur de se tromper. On s'imagine que c'est trop compliqué pour nous. Et puis, on va laisser ça aux théologiens. Mais vous savez, il y a quelques temps, je pense que ça fait peut-être 2 ans et demi, 3 ans, Le Seigneur m'a vraiment parlé dans mon cœur, et je vous ai déjà partagé ça, mais il m'a secoué dans mon esprit, me disant « Étudie et enseigne le livre de l'Apocalypse ». Et à l'époque, ma réponse, c'était « Seigneur, il y a des experts là-dedans, il y a Mario Mascotte, par exemple, et puis je vais laisser ça aux autres. » Mais dans mon esprit, Dieu m'a secoué, et puis il m'a donné la responsabilité. Non, je t'appelle à le faire. Donc, moi, je dois marcher dans l'obéissance et prêcher ce que Dieu m'appelle à prêcher. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et puis, ce que je veux faire ce matin, c'est vous enseigner certaines choses qui sont vraiment importantes. Mais avant de vous enseigner ces choses-là, je dois vous aider et enlever un mensonge qui peut être dans votre tête. Plusieurs personnes se disent des fois, même les chrétiens, on n'a pas vraiment besoin d'entendre parler de l'Apocalypse. C'est vraiment pas un sujet pertinent ou important. Bien, cette semaine, si vous avez écouté les nouvelles, l'actualité, j'espère que vous réalisez que non, c'est pertinent de parler de l'Apocalypse. Amen. Amen. J'espère que vous commencez à réaliser ça. Mais peut-être pas encore, mais si, admettons, vous dites, ben, c'est pas vraiment un sujet important. J'aime mieux entendre parler de la guérison divine. J'aimerais mieux entendre parler ce matin sur comment élever ma famille ou comment vivre ceci ou vivre cela. Si vous avez des pensées dans votre tête et vous dites, ben, j'aimerais mieux entendre telle autre chose, aujourd'hui, j'aimerais vous poser la question, si c'est pas important d'entendre parler de la prophétie de l'Apocalypse, dites-moi pourquoi Dieu nous a donné le livre de l'Apocalypse. C'est pas important. Vous savez, moi, je crois que chaque parole de Dieu, toute la parole de Dieu est inspirée de l'Esprit de Dieu et profitable et utile pour notre vie. Amen. Je vais vous relire ce texte-là maintenant en rajoutant des versets de d'autres traductions. C'est dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites. Ou la version des peuples, c'est dit, et tiennent compte de tout ce qui est écrit, qui tiennent compte. On peut dire, bien oui, l'Apocalypse est là, mais finalement, je n'en tiens pas vraiment compte. Ça l'arrivera comme ça l'arrivera, et puis on verra bien. On peut avoir cette attitude-là, mais ça dit, et qu'ils tiennent compte de tout ce qui est écrit. Ou en français courant, ça dit, prennent au sérieux ce qui est écrit. Donc, heureux celui qui prend au sérieux ce qui est écrit. Donc, notre attitude vis-à-vis le sujet de l'Apocalypse, si on ne le prend pas au sérieux, on ne sera pas béni, on ne sera pas heureux. Et puis, c'est une chose, on va passer à côté d'une bénédiction de Dieu. Mais si on prend au sérieux, et puis on tient compte vraiment, ça nous dit, on va être heureux, car le temps est proche. Donc, si les prophéties ne sont pas importantes aujourd'hui, pourquoi Dieu nous aurait-il donné des prophéties pour servir d'avertissement? Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Hein, ça donne pas grand-chose. Voyons maintenant ce qui compte véritablement pour le Seigneur Jésus. Venez avec moi dans 2 Timothée, chapitre 2. On va aller au verset 3 à 13. 2 Timothée, chapitre 2, 3 et 3 à 13. Et si l'apôtre Paul dit à son fils spirituel Timothée, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. » Ici, il y a deux choses que je voulais souligner. Ça dit, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Nous sommes des soldats du Seigneur Jésus-Christ. Et combien d'entre nous passons beaucoup d'heures par semaine à faire autre chose que se préoccuper véritablement des choses de Dieu, des choses qui concernent le royaume de Dieu. Mais ça dit, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. Certainement, nous vivons les deux pieds sur terre, nous avons tous un travail, des responsabilités. Certainement, on doit être responsable. Mais ça dit qu'il s'embarrasse des affaires de la vie. Il y a une différence entre rencontrer nos responsabilités, marcher dans une voie responsable. Certainement, on est appelé à faire ces choses-là. Mais il y a aussi la dimension où quelqu'un peut être totalement absorbé juste avec le terre-à-terre et le monde dans lequel nous vivons, puis juste vivre comme ça, comme s'il n'y avait rien d'autre. Mais si l'apôtre Paul dit à Timothée, il dit « Souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi de Jésus-Christ. » Pourquoi? Bien parce que des fois, dans notre préoccupation, on peut oublier le Seigneur. Et c'est ça qui est vraiment remarquable. On peut travailler pour Dieu, on peut servir le Seigneur le dimanche matin, venir servir dans un ministère, l'aimer le dimanche matin, mais l'oublier la semaine. Et Dieu est en train de nous dire, non, nous vivons dans des temps importants et on doit se rappeler, on doit se souvenir de qui nous servons. Amen. C'est ça qui compte vraiment pour le Seigneur. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est voir, OK, on comprend, on a un Dieu qui nous donne des révélations. Si Dieu a donné des révélations, des prophéties dans la parole de Dieu, c'est pour qu'on puisse les recevoir, les comprendre, amen, et être protégés. C'est le but. C'est le but. Il y a aucune prophétie dans la parole de Dieu qui sont là, puis on dira, ah, ben c'est très bien, c'est écrit, mais voilà, c'est bien pour les autres. Non, si le Seigneur a fait en sorte qu'on puisse avoir sa parole et avoir ses prophéties, c'est pour qu'on puisse les comprendre, les recevoir et être protégés et connaître également ce qui se passe autour de nous. Puis on va le voir ensemble ce matin. Je pense que ça va vraiment vous aider. Mais avant, aussi, ce qu'on doit voir maintenant, c'est les signes spirituels concernant ces moments, ces temps prophétiques dans lesquels nous vivons. Il va y avoir, selon la parole de Dieu, l'insouciance spirituelle dans le monde. En autre mot, quand on va parler des choses de Dieu, quand on va parler même de l'actualité spirituelle, les gens vont dire, ben, ça ne m'intéresse pas. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui dirait ça? Ah, ben, moi, les choses de Dieu, ça m'intéresse pas vraiment. Non, moi, ça m'intéresse pas. Une fois, je me souviens, j'étais au gym, j'étais sur une machine, j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'allais à l'école, et puis la personne me dit, ah, qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'ai dit, ben, moi, à l'époque, je pense, j'étudiais en théologie, puis la personne me dit, oh, moi, ça m'intéresse vraiment pas. C'est comme ça. Je l'avais pas vu pendant plusieurs années, et puis ça a été aussi vite comme ça. Tu fais quoi dans la vie? Ben, de Saint-Cy, j'étudie en théologie, puis ça m'intéresse pas. Pourquoi? Bien, on va voir même prophétiquement si c'était écrit dans la parole de Dieu. Venez avec moi dans Matthieu 24, versets 37 à 39. Matthieu 24, versets 37 à 39. Ici, on voit le climat spirituel avant le second retour. Ici, présentement, on le sait, le second retour va être après les 7 ans de tribulation. Et je ne prendrai pas trop le temps ce matin de tout décortiquer ça, mais on veut juste voir un peu le climat spirituel qui arriverait à ce moment-là. Et on peut voir déjà aujourd'hui, on vit ça. Dans Matthieu 24, versets 37 à 39, il est écrit « Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme » ou le second retour. « Car dans les jours qui précèdent, écoutez bien, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. » Avez-vous entendu parler de l'arche de Noé? Peut-être que vous êtes allé au cinéma et vous avez vu ce film horrifique que moi, je n'ai pas vu. J'ai pas dépensé 2 cents pour aller voir ce film-là qui assassinait le caractère de notre Dieu. C'est un film qui méritait pas d'être fait. Tout ça pour vous dire parce qu'en fait, ils ont pris un film et puis ils ont complètement détruit le personnage de Noé, entre autres, et puis ils ont assassiné le caractère de Christ. Et c'est pas du tout fidèle au texte biblique. Mais tout ça pour dire... On connaît également, à partir de la parole de Dieu, le récit de Noé. Et même dans toutes les cultures du monde, les religions du monde, les gens vont parler de ce grand déluge qu'il y a eu dans le monde. C'est historiquement, les gens en parlent. Et puis au verset 39, ça dit, « Ils ne se doutèrent de rien. Jusqu'à ce que le déluge vint, il les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Remarquez bien, ça dit. Je vais le relire. C'est dit au verset 38, « Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. » Donc, on sait que Noé prêchait la repentance. Noé, avertissait les gens, il leur disait, « le jugement arrive, repentez-vous, tournez-vous vers Dieu, détournez-vous du mal, entrez dans l'arche avec moi, vous serez protégés. » Noé prêchait ce message-là. Et pourtant, ça nous dit, les gens mangeaient et buvaient, se mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Donc, pendant tout ce temps-là, les gens disaient, ça ne m'intéresse pas. Avez-vous déjà rencontré des gens comme ça? Vous voulez leur partager l'évangile, que Jésus les aime, que Jésus veut les sauver? Et pourtant, ils peuvent dire, bon, ça ne m'intéresse pas. Et là, verset 39, ils ne se doutèrent de rien. Jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ça nous dit dans les temps de la fin, ça va être la même chose. Les gens vont dire, ça ne m'intéresse pas. Et dans 2 Pierre, chapitre 3, 3 à 4, ça nous dit même, non seulement ils diront, ça ne m'intéresse pas, mais ils vont également se moquer des choses de Dieu. En fait, les choses saintes de Dieu seront moquées. Dans 2 Pierre 3, verset 3 à 4, ça dit, « Il viendra des moqueurs avec des railleries marchant selon leur propre convoitise et disant, « Où est la promesse de son avènement? Où est la promesse? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. » Donc, les gens seront incrédules. Ils vont dire, ben oui, c'est écrit là, vous prêchez ça, ça fait longtemps, mais où est la promesse? Finalement, les gens vont être remplis de doutes. Et même, le doute va être tellement horrible que dans Luc 18, verset 8, il est écrit, « Quand le Fils de l'homme viendra, Ici, on parle du second retour, encore une fois. Trouvera-t-il la foi sur la terre? Remarquez, Luc 18, verset 8. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Une question. Donc, on sait qu'il va y avoir un climat d'incrédulité où les gens ne croiront pas ce que Dieu a dit. Donc, ça, c'est une réalité dans notre monde. Êtes-vous d'accord que les gens, en général, sont comme ça, sont remplis de doutes? Quand on parle à partir de la parole de Dieu, il y a beaucoup de personnes qui vont dire, « Bien, moi, je ne crois pas ce que la Bible dit. » Mais là où c'est plus grave, c'est quand c'est rendu dans l'Église. Quand les gens, quand l'épouse, ou on pourrait dire l'Église, les chrétiens, sont insouciants ou indifférents vis-à-vis de la prophétie biblique. Dans 2 Timothée maintenant, chapitre 4, versets 1 à 5. Et ce que je vais vous dire ce matin, peut-être vous allez vous identifier là-dedans et dire, oh, c'est vrai, moi j'ai vraiment mis de côté le livre de l'Apocalypse ou les choses qui concernaient les temps de la fin, et puis ça ne m'intéressait pas vraiment. Mais peut-être aujourd'hui, à cause de ce message, vous allez pouvoir être secoué en dedans et réaliser, si Dieu nous a donné ces paroles-là, c'est pour qu'on puisse les comprendre et les connaître. Vous savez, dans le monde dans lequel nous vivons, les gens se tournent vers Nostradamus, par exemple. Ils se tournent vers des faux prophètes qui se trompent. Mais vous savez, Dieu ne se trompe jamais. Nous avons ici une prophétie certaine, la parole de Dieu, qui nous donne la joie. C'est ça qui est merveilleux. Ça nous dit « heureux celui qui lit la prophétie, heureux ou béni ». Donc, si je lis cette prophétie, je vais être heureux et béni. Amen. Gloire à Dieu, je vais être heureux, je vais savoir, ça m'appartient. Et je sais que Dieu va me protéger, gloire à Dieu. Et puis je sais comment marcher pour vivre vraiment tout ce que Dieu en réserve pour ma vie. Gloire à Dieu, donc il n'y a aucune crainte dans mon cœur. Et je ne veux pas être indifférent, je ne veux pas avoir peur, je ne veux pas être ignorant non plus des choses que Dieu avait prophétisées. Parce que si Dieu a fait en sorte qu'on ait ce livre-là, c'est pour moi et je dois le connaître. Dans 2 Timothée chapitre 4, verset 1 à 5, il est écrit, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. » Là, ici, l'apôtre Paul dit à son fils spirituel, Timothée, « Prêche la parole, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps. » L'apôtre Paul dit, « Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Donc ici, moi, ce que je trouve vraiment remarquable, l'apôtre Paul dit à son fils Timothée, écoute, continue à prêcher, parce qu'il va venir un temps où les gens vont vouloir juste entendre des belles paroles qu'ils vont trouver intéressantes. Ils vont avoir la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et puis dans le courant spirituel dans lequel nous vivons, ou ce que nous voyons plutôt, il y a plusieurs personnes qui vont juste prêcher des messages pour vous faire du bien. On appelle ça des fois la psychologie, pop psychology en anglais, la psychologie. Et puis on peut vous donner plein de principes pour votre vie. Et c'est merveilleux d'avoir des bons principes bibliques pour savoir comment avoir une belle famille heureuse, comment bien gérer nos finances, comment recevoir la guérison divine. Toutes ces choses-là, on a besoin de connaître les principes de Dieu. Amen? Amen. On doit connaître tout le conseil de Dieu. Mais on ne peut pas prêcher juste une chose et ne jamais toucher au livre de l'Apocalypse. Si on fait ça, on fait fausse route. C'est comme si on dit, d'une certaine façon, la Bible est bonne, mais ici, le livre de l'Apocalypse ou le livre de Daniel, par exemple, on va les arracher. Non, pas d'une façon physique. On va aller à l'église avec notre belle Bible. Le livre de l'Apocalypse est là, et Daniel aussi, admettons. Mais faut pas l'ouvrir. Parce que là, dans notre église, on veut juste avoir du bon temps, sourire et se réjouir. Mais la révélation est là. Et si vous êtes un chrétien puis vous avez une Bible comme la mienne, là, vous avez une Bible avec tous les livres de la Bible. Mais ça veut dire, à l'occasion, il faut l'ouvrir. Amen. Ici, ça nous dit, écoutez bien, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ça veut dire, c'est comme ça. Je ne veux pas l'entendre, ce message-là. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. En anglais, ça dit « itching ears ». Des oreilles qui picotent, si on veut. Ils veulent juste entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs. Comment est-ce qu'ils vont faire ça? Ils vont soutenir financièrement des gens qui vont leur dire « Hey, il fait beau aujourd'hui. Vous allez devenir de plus en plus riches. Hallelujah! » Et là, « Oh oui, c'est ça que je veux entendre. » Mais on doit être allumé et comprendre ce que Dieu veut nous dire. Amen? Amen. Gloire à Dieu. Une personne. Hallelujah. Moi, je vais dire Amen pour moi-même. Amen. Hallelujah. Donc, on voit qu'il va y avoir un climat spirituel dans le monde et un climat spirituel dans l'Église. Et devant Dieu, on peut s'arrêter et dire, moi, est-ce que je fais partie du climat dans le monde? Est-ce que je suis comme le monde? Ou même, est-ce que je suis comme ce climat spirituel dans l'Église où les gens veulent juste entendre des choses agréables? Ou est-ce que je veux entendre la vérité? L'apôtre Paul a demandé, est-ce que je suis maintenant devenu votre ennemi parce que je vous dis la vérité? Moi, je veux vous dire la vérité. Amen. Je vous dis la vérité. Donc, Dieu nous appelle son peuple à être réveillé et alerte. Dieu appelle son peuple à être réveillé et alerte concernant les choses dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. Vous pouvez venir avec moi dans 1 Chronique 12, 32. Dieu appelle un peuple de discernement, un peuple prophétique, un peuple qui connaît les choses à l'avance. Mais savez-vous, pour connaître les choses à l'avance, ça veut dire qu'on va étudier la parole de Dieu pour discerner ces choses-là. Amen. Si on ne lit même pas le livre de l'Apocalypse, si vous ne lisez pas le livre, comment pouvez-vous comprendre les choses qui vont arriver? Vous ne pourrez pas discerner et dire, ah ben là, je discerne telle ou telle chose, parce que vous ne lisez même pas la révélation. Amen. Dans 1 Chronique 12, verset 32, il est écrit, « Les fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. » Il y avait ici un peuple, Issachar, les fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps. Ça veut dire qu'ils étaient allumés. Ces hommes-là étaient allumés. L'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Dieu même, à l'époque, voulait instruire son peuple. Amen. Si on va maintenant dans Luc, chapitre 21, verset 36. Donc, on voit dans l'Ancien Testament, Dieu avait un peuple réveillé, intelligent concernant les temps. Et dans Luc 21, verset 36, dans la Bible Second, ça dit, Second 21, « Restez donc éveillés et priez en tout temps. » La Bible nous dit ici, « Restez donc éveillés et priez en tout temps. » Dans Louis II, ça dit, « Veillez donc et priez en tout temps. » Dans la Bible du Sommeur, « Restez sur vos gardes et priez sans relâche, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. » La Bible nous parle des fléaux qui vont venir sur la terre. Mais la Bible nous dit aussi, « Veillez donc et priez en tout temps. Restez sur vos gardes et priez sans relâche. Pourquoi? Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. » Ou dans King James, version française, ça dit, « Afin que vous soyez estimés dignes d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Afin de paraître debout. Bien, quand est-ce qu'on va apparaître debout devant le Fils de l'homme ou devant le Seigneur Jésus? Mais c'est au tribunal de Christ. Donc, Dieu veut qu'on échappe aux mauvaises choses qui vont venir sur la terre. Ça, moi, je le crois de tout mon cœur. Dieu s'est choisi une épouse. C'est un corps de croyants. C'est le corps de Christ, des croyants qui se sont vraiment engagés pour le Seigneur, qui sont tombés en amour avec Jésus, qui veulent honorer Dieu avec leur vie, qui marchent dans la pureté, qui gardent leurs vêtements purs. Amen, l'épouse de Christ. Et je crois vraiment ici que ce texte-là nous dit que Dieu veut préserver son épouse du mal. Amen. Et je peux vous dire, si admettons, je m'en allais en vacances, j'étais avec mon épouse, et puis je dois quitter, admettons, je m'en vais dans une autre ville, et puis j'entends dire que dans la ville où j'étais, où mon épouse est en ce moment, qu'il y a des émeutes, et puis on attaque les Canadiens, par exemple. Bien, imaginez, pensez-vous que je vais laisser mon épouse là-bas? Non, je vais aller la chercher et je vais la sortir pour la secourir, pour qu'elle échappe aux émeutes ou aux attaques, n'est-ce pas? Dans le naturel, je vais faire ça. Bien, notre Dieu, le Dieu de la Bible, nous dit qu'il veut qu'on échappe aux choses qui vont venir sur la terre. Mais on doit comprendre la révélation pour savoir comment échapper. Vous savez, on peut échapper à plein de niveaux. Juste le psaume 91, on peut voir comment Dieu protège ses enfants. Même dans des moments d'ouragan, des tornades qui arrivent, on peut entendre les rapports où les gens sont totalement dévastés, où il y a de la destruction partout. Mais pour les enfants de Dieu, ce qu'on entend des témoignages, les enfants de Dieu qui se sont mis en accord avec la parole de Dieu, on découvre que leur maison était totalement protégée, où les gens ont été épargnés. Je vous ai raconté plusieurs témoignages comme ça. Vous savez, ce n'est pas assez d'être un chrétien qui croit dans la Bible pour être protégé. Vous allez être surpris. Vous pouvez avoir votre Bible comme ça, venir à l'Église de la Victoire du Québec, mais si vous ne lisez pas la Bible et si vous ne prenez pas le temps de découvrir votre héritage en Christ et si vous ne réclamez pas ce que Dieu a promis, si vous laissez l'ennemi venir vous attaquer dans votre vie, vous ne bénéficierez pas de votre héritage. Mais moi, ce que j'aime, c'est entendre les témoignages de personnes qui ont lu le rapport biblique, qui ont dit « OK, c'est comme ça qu'on doit se protéger », qui ont mis en pratique la parole de Dieu. L'ouragan arrive comme ça, et puis toutes les maisons dans le quartier sont détruites, sauf la maison de l'enfant de Dieu. Je vous ai raconté plein de témoignages comme ça, n'est-ce pas? Il y a plein de témoignages comme ça, où des gens, le 11 septembre, ils ont entendu la voix de Dieu. Dieu a dit « Aujourd'hui, tu ne rentres pas travailler », où il y avait toutes sortes de choses, et puis ils ont été protégés. Est-ce que Dieu aime tout le monde? Dieu aime tout le monde, mais est-ce que c'est tout le monde qui vont se mettre en position pour être protégé dans les temps de la fin? La Bible nous dit « Non, c'est pas tout le monde, c'est ceux qui vont recevoir le rapport de Dieu, qui vont mettre en pratique et qui vont être heureux, comme la Bible nous dit. Gloire à Dieu! Amen! Ça veut dire que moi, je vais être une personne de la parole. Donc, on voit ici qu'on peut échapper. Et dans Éphésiens chapitre 5, versets 14 à 16, Éphésiens chapitre 5, versets 14 à 16, ça dit, c'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors. » Ici, on parle aux enfants de Dieu. « Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » On peut dormir spirituellement. Il peut y avoir plein de choses qui se passent sur le globe. On écoute les nouvelles puis on s'imagine, « Ah ben, tout est beau, tout est beau. » C'est ailleurs. Mais la Bible nous dit, « Réveille-toi, toi qui dors. » Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Christ t'éclairera, Dieu va te montrer le chemin. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Dans la Bible du Sommeur, ça dit, veillez donc avec soin à votre manière de vivre, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. OK, gloire à Dieu. Là, on peut dire, OK, je sais qu'il va y avoir un contexte spirituel dans le monde où les gens vont être incrédules, mais spirituellement, OK, ça le dit, ça va arriver un jour, mais je pense pas qu'on est rendu là encore, pasteur. Je pense que spirituellement, surtout au Canada, nous, ça va vraiment bien, on est bénis au max, alléluia. Est-ce que je peux vous donner des statistiques pour vous donner un petit peu la réalité dans laquelle nous vivons aujourd'hui? Je vais vous donner les statistiques que j'ai lues lors de la conférence pour pasteurs où j'étais cette semaine. Je vais vous donner un petit peu le climat spirituel aux États-Unis. Juste aux États-Unis, comment ça se passe. En fait, suite à ce sondage qui a été fait par prayingforpastors.com, prions pour les pasteurs, ici on voit qu'il y a une épidémie de découragement dans le monde chrétien actuellement. Une épidémie de découragement. C'est épouvantable. Ici, cette année, on a vu aux États-Unis 7000 églises qui ont fermé leurs portes. 7000 églises chrétiennes ont fermé leurs portes. Il y a 1700 pasteurs abandonnent le ministère à tous les mois aux États-Unis. 1700 pasteurs abandonnent le ministère à tous les mois. Ça, c'est 55 pasteurs par jour qui démissionnent aux États-Unis. 50% des pasteurs abandonneraient le ministère s'ils pouvaient, mais ils restent à leur poste afin de conserver leur salaire. Imaginez! La moitié sont là parce qu'ils sont obligés. Ils disent, ben, financièrement, je ne peux pas faire autre chose. J'ai été formé juste pour faire ça. Je ne sais pas comment m'en sortir. Et puis, ils restent là. Donc, imaginez, les églises ne reçoivent même pas la parole de Dieu véritablement parce qu'ils n'ont pas vraiment un serviteur de Dieu. Ils ont simplement quelqu'un qui a un travail. Ce n'est plus vraiment quelqu'un qui marche dans son appel. 70% des pasteurs combattent la dépression constamment. 80% des pasteurs croient que le pastorat a nuit à leur vie familiale. 70% des pasteurs affirment avoir une estime de soi inférieure à ce qu'ils avaient avant d'être pasteurs. Pourquoi, pensez-vous? À cause des gens qui critiquent constamment. C'est pour ça. 40% des pasteurs affirment gérer au moins un conflit sérieux à tous les mois. 90% des pasteurs affirment travailler entre 55 heures à 75 heures par semaine et 80% des pasteurs ayant gradué d'un séminaire qui entrent dans le ministère pastoral quitteront le pastorat avant la cinquième année. Seulement 50% des pasteurs se sentent toujours appelés au ministère pastoral après 3 ans de ministère. 70% des pasteurs n'ont pas d'amis, de confidents ou de mentors. Seulement 10% des pasteurs prendront leur retraite en tant que pasteur. Seulement 10%. 80% des épouses de pasteurs se sentent mises à part, mises de côté et non appréciées par les membres de l'Église. 80% des épouses de pasteurs souhaiteraient que leur mari change de profession et 50% des mariages de pasteurs se termineront en divorce, selon le sondage. Bon, vous dites, mon doux, pasteur Joël, toi, est-ce que ça te concerne? Je peux te dire non. Je suis bien marié, on est super heureux et béni. Amen, gloire à Dieu. Je peux vous dire, on est heureux et béni. Ceci dit, vous entendez les statistiques, c'est le pire temps en histoire pour le christianisme au niveau des persécutions dans le monde. Et non seulement ça, au niveau même du climat spirituel, c'est très, très, très difficile. C'est une guerre spirituelle. Donc, on doit être réveillé et comprendre qu'on doit prier. On doit être réveillé et réaliser qu'on est dans une guerre spirituelle, même si on ne voit rien dans le naturel. Et même de nos jours, là, on commence à voir des choses. Mais dans le naturel, on ne voit rien, sauf qu'il y a un climat spirituel d'oppression pour venir décourager les pasteurs. Savez-vous, si le pasteur est découragé et brisé, qu'est-ce qui va se passer dans l'Église? La même chose. Ça va vraiment venir écraser le peuple de Dieu. Donc, on sait qu'on vit dans des temps marquants, des temps importants, où on doit être vigilant et ne pas mettre de côté la révélation concernant les temps dans lesquels nous vivons. Parce que Dieu nous parle aujourd'hui. Il veut qu'on soit protégé, il veut qu'on soit vigilant et alerte. Il veut qu'on prie les uns pour les autres et qu'on marche et qu'on avance dans la bénédiction de l'Éternel et à être heureux. Amen. Gloire à Dieu. Si c'est écrit, moi je crois que c'est écrit, béni ou heureux est celui qui lit cette prophétie. Et moi je crois, si c'est écrit, je vais être heureux, je veux être heureux et je veux lire cette prophétie. Amen. Bon, on va lire ensemble. Je vais vous montrer plutôt ici. Si on dit, OK, on vit dans des temps assez importants, j'aimerais ça maintenant qu'on s'arrête pour examiner l'un des nombreux signes qui indiquent l'heure prophétique dans laquelle nous vivons. Il y a des gens qui diraient encore aujourd'hui, bien, on vit vraiment dans un moment peut-être, OK, difficile dans le monde, mais il y a toujours eu des moments difficiles dans le monde. Il y a toujours eu des tremblements de terre. Il y a toujours eu des tornades. Il y a toujours eu. Mais en fait, savez-vous, il n'y a jamais eu ce qu'on voit aujourd'hui tout en même temps avec l'accélération et ce qu'on voit en ce moment. C'est vraiment du jamais vu. Surtout quand on écoute les nouvelles, on entend souvent remarquer. Quand vous allez écouter les nouvelles, ils vont souvent dire constamment, pour la première fois, du jamais vu. Unseen, c'est toujours, ça revient constamment. C'est comme des records, des records, des records. Pourquoi? Parce qu'on vit dans ces temps prophétisés dans la parole de Dieu. OK, on dit, bien, ça a été prophétisé, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut changer là-dedans? On peut être vigilant et comprendre dans le moment dans lequel nous vivons pour ensuite savoir que Dieu nous appelle à être responsable dans ces moments-là. Là, une des choses, examinons l'un des nombreux signes. Je pourrais vous donner plein de signes concernant les temps dans lesquels nous vivons, mais je vais vous exposez à un des signes. Êtes-vous prêt? Juste un. C'est la montée de l'esprit de l'Antichrist dans le monde. On va juste voir ça. Juste un des signes. Il y en a plein dans la parole de Dieu. Mais un seul signe, c'est la montée de l'esprit de l'Antichrist dans le monde. Ici, là, on parle au-delà d'un regroupement, au-delà d'une personne. Quand je vais parler ici de l'Antichrist, oui, on connaît dans la parole de Dieu, ça nous dit qu'il va y avoir un homme politique, l'Antichrist, qui va s'élever et tout ça. Mais on veut aller au-delà de la personne ou même de regroupement de personnes. On veut parler ici de l'esprit derrière tout ça. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 22, 1 Jean 2, 22, ça nous parle que l'esprit de l'Antichrist va vouloir diminuer la personne de Jésus, va vouloir qu'on nie qui est véritablement le Seigneur Jésus. Ça nous dit dans 1 Jean 2, 22, « Alors, qui est le menteur? C'est celui qui nie que Jésus est le Christ. Car l'Antichrist, c'est celui qui refuse de reconnaître le Père et le Fils. » Là, on va bâtir sur quelque chose. Vous allez commencer à voir des choses. Donc, il va y avoir un mouvement où on va croire dans le Père, Dieu le Père, mais on va refuser de reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu. On va nier qui est Jésus véritablement. Pensez pendant quelques instants. Entendez-vous parler parfois contre le Seigneur Jésus? On va parler contre Dieu, mais là, il va y avoir un mouvement et on est déjà dans ce mouvement-là où on va vouloir vraiment dénigrer qui est Jésus véritablement. Pensez-y pendant quelques instants. Je vais vous relire. Qui est le menteur? Celui qui nie que Jésus est le Christ. Un mouvement qui dit Jésus n'est pas le Messie, Jésus n'est pas le Christ, il n'est pas l'envoyé de Dieu, pas le oint. Ça nous dit, car l'Antichrist, c'est celui qui refuse de reconnaître le Père et le Fils. Amen. Ensuite, il va y avoir une séduction par une fausse paix. Une fausse paix. Dans Daniel 8, verset 25, je vous lis dans la version Parole de vie, en parlant de l'Antichrist, ça dit, « Il sera très habile. C'est pourquoi il arrivera à tromper les autres. Dans son orgueil, il tuera beaucoup de gens qui se croiront en sécurité. » Il se lèvera contre le plus grand de tous les chefs. À ce moment-là, il sera détruit. Pourtant, aucun homme n'agira contre lui. Ici, on parle vraiment spécifiquement de l'Antichrist, ce personnage historique. Mais même aujourd'hui, dans l'esprit dans lequel nous vivons, on parle ici d'un esprit qui va vraiment être habile à séduire les gens, à croire que les gens viennent d'un mouvement de paix. On prêche la paix, nous. Nous sommes des gens paisibles. Nous sommes dans la paix. La Bible nous le dit à l'avance. Il va y avoir des gens comme ça qui vont dire, nous sommes des gens de paix. Mais en fait, la Bible nous met en garde. Il sera très habile, c'est pourquoi il arrivera à tromper ou à séduire les gens. Les gens vont dire, ah, c'est des gens de paix, c'est des gens de paix, c'est des gens de paix. Mais cet esprit, c'est un esprit de séduction pour faire quoi? Pour séduire. Ça dit, il tuera beaucoup de gens qui se croiront en sécurité. Les jours dans lesquels nous vivons, frères et sœurs. Aussi, dans ce mouvement-là, il va y avoir l'honneur d'un Dieu de guerre. L'honneur d'un Dieu de guerre. Dans Daniel 11, verset 38, ça nous dit ici, « Il honorera le Dieu des forces, le Dieu des forces, où on oblige les gens à croire comme eux. Le Dieu des forces, et avec or et argent, et avec des pierres précieuses, et avec les choses les plus désirables, il honorera un Dieu qui n'ont pas connu ses pierres, ses pères, plutôt. » Donc ici, l'honneur, il honorera le Dieu des forces, dans King James française. Il va également y avoir l'imposition d'une loi propre à l'esprit de l'Antichrist. Remarquez bien ceci, l'imposition d'une loi à l'esprit, qui est vraiment propre à l'esprit de l'Antichrist. Dans Daniel 7, 25, c'est dit, « Il, l'Antichrist, prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. » Il va être anti-juif, anti-juif. Tout un courant anti-juif. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce qu'on a vu, c'est un mouvement antichrist. C'est un mouvement contre les Juifs, n'est-ce pas? Si vous connaissez un peu l'histoire, contre le peuple de Dieu, contre le peuple d'Israël. Mais ça dit, il opprimera les saints du Très-Haut, il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Ici, on parle de 3 ans et demi. Mais il espérera changer les temps et les lois. Et ensuite, il va y avoir la mise à mort des infidèles. Remarquez bien, dans l'Apocalypse 20, verset 4. « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » Ça, ici, on parle des martyrs de la tribulation. Et la façon qu'on va les tuer, ça nous dit qu'ils vont être décapités. Hallelujah! Pensez-vous que la Bible est actuelle? Pensez-vous qu'on devrait lire l'Apocalypse? C'est vraiment pas important, ça. Vraiment, là, regarde, prêche d'autres choses. Ou devrions-nous connaître un peu ce que la Bible nous dit en ce moment, concernant simplement l'esprit de l'Antichrist? Ici, on ne parle pas de l'Antichrist comme étant là présentement. Là. On ne parle pas de ça. On est juste en train de parler de l'esprit derrière les choses qu'on voit en ce moment. Donc, on voit vraiment l'esprit est à l'œuvre, l'esprit de l'Antichrist, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il y a également l'esprit de Dieu qui est au travail. Et l'esprit de Dieu est plus fort que l'esprit de la mort.
Amen.
L'esprit de Dieu travaille à travers nos vies lorsque nous ouvrons la bouche et nous proclamons la vie de Dieu. Quand on prêche la bonne nouvelle de l'Évangile. Vous savez, ce qu'on retrouve dans la parole de Dieu ici, c'est pas l'imposition d'une religion sur quelqu'un. Personne ne sera obligé de recevoir Jésus dans sa vie. Mais le Dieu que nous prêchons, c'est le Dieu qui est venu nous donner la vie et la vie en abondance. Mais c'est une question de choix. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de choix qui nous donne l'opportunité de céder notre vie à Dieu et dire, je te donne ma vie, prends ma vie, fais de ma vie un chef-d'œuvre. Mais vous savez, on lit la parole de Dieu, on peut lire les principes de Dieu comme on a fait plusieurs fois. On découvre les grandeurs de notre Dieu. Nous célébrons notre Dieu, on aime Dieu, puis on voit comment Dieu est merveilleux pour ses enfants. On fait juste lire, par exemple, le psaume 103 qui nous dit qu'il guérit toutes nos maladies. On voit comment Dieu est bon, comment Dieu est merveilleux. Mais savez-vous, Dieu est tellement bon qu'il veut nous prévenir des choses qui vont arriver à l'avance pour qu'on se prépare spirituellement. Pour qu'on se prépare spirituellement. C'est écrit dans la parole, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. On doit se préparer. Vous savez, si on lit la Bible, on ne sera pas surpris par les événements. On ne sera pas surpris. Je peux vous dire, moi, ça fait des années, des choses qu'on est en train de voir à la télévision aujourd'hui, je savais que ça arriverait. Pourquoi? Parce que je suis meilleur que les autres? Non, parce que c'était écrit dans la parole de Dieu. C'était écrit et on voit les choses se produire. Et même spécifiquement, même depuis même deux ans et demi, je vois vraiment des choses que je viens de revoir récemment, qu'on est en train de voir, qui sont mises en lumière. On dit, OK, bien, qu'est-ce qu'on fait, nous, les enfants de Dieu, devant cette situation-là, devant l'actualité? Bien, une des choses qu'on devrait faire, c'est connaître la révélation. Puis j'aimerais vous encourager, si vous n'avez jamais lu le livre de l'Apocalypse, j'aimerais vous encourager, lisez aujourd'hui le livre de l'Apocalypse. Vous devriez lire. Puis si vous dites, bien, moi, j'ai peur de rien comprendre, bien, j'aimerais vous inviter à aller sur le site web enseigne-moi.com et cliquer sur l'onglet où vous pouvez retrouver chaque verset de la Bible expliqué. Dans l'Apocalypse. Ou encore, vous venez sur le site de l'Église, evqmedia.com, et à droite, vous allez avoir une bannière. Cette bannière-là, ça dit les commentaires bibliques. Vous cliquez là-dessus, cliquez ensuite sur Apocalypse, et je vais lire la Bible avec vous, verset par verset, puis je vais décortiquer chaque phrase pour vous aider à comprendre. Vous avez accès à quelque chose maintenant qui est tout à fait gratuit. La seule chose que ça va vous coûter, c'est du temps. Donc, moi, je crois de tout mon cœur, si Dieu nous a donné cette révélation-là, c'est pour qu'on la lise, qu'on la comprenne et qu'on se prépare spirituellement, mais non seulement se préparer juste pour les choses qui arrivent sur le monde, pour comprendre le cœur de notre Dieu. Notre Dieu n'enverra jamais le jugement sur ses enfants. Notre Dieu nous aime avec un amour éternel. Et tout comme un père dans le naturel veut venir secourir ses enfants du malheur, notre Dieu veut faire la même chose avec nous. Il veut venir nous secourir de l'heure dans laquelle nous vivons. Et Dieu a une protection surnaturelle pour nous. Et c'est ça qui peut nous réjouir aujourd'hui. Savoir que mon Dieu m'a tellement aimé, non seulement qu'il m'a envoyé son Fils pour mourir sur la croix, pour payer ma dette de péché, mais non seulement ça, Dieu a promis qu'il était pour revenir me chercher. Gloire à Dieu! Amen. Et vous savez, j'écoutais récemment une prédication et puis le frère prêchait puis disait, de plus en plus, on n'entend plus jamais parler des choses de l'Apocalypse. De plus en plus, dans le courant dans lequel nous vivons, on n'entend jamais parler de ça, mais dans les années 50, on en parlait. Et aujourd'hui, quand on aurait besoin d'en entendre parler, on n'entend plus parler de ça. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas intéressés. Mais savez-vous, que vous soyez intéressés ou non, moi je vais prêcher ce que Dieu m'appelle à prêcher. Parce que je crois que c'est important qu'on soit au courant. Si vous dites, oui, ça va me prendre la concentration, amen, hallelujah. Oui, vous pouvez prendre le livre de l'Apocalypse, vous commencez un verset à la fois, vous pouvez même aller chercher les explications et grandir et être équipé spirituellement. Ne pensez pas que c'est pour les spécialistes, les théologiens, c'est pour vous, la révélation est pour vous, amen, amen. Et puis maintenant, venez avec moi. Si on dit, OK, il y a toutes sortes de choses qui se passent dans notre monde, quelle est ma réaction? Est-ce que je devrais avoir peur? Non, la Bible nous dit qu'on devrait être heureux. Heureux. Heureux parce qu'on connaît notre portion. On connaît l'amour que Dieu a en réserve pour nous. On sait que Dieu a des plans spécifiques pour notre vie. Amen. Et là, dans 2 Pierre, venez avec moi dans 2 Pierre, chapitre 3 et le verset 8. Devant toute l'incrédulité dans le monde. Bon, le monde peut être incrédule. Même les chrétiens peuvent être incrédules. Mais ici, on retrouve quelque chose de merveilleux. Dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 8, il est écrit, « Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » Pour nous, c'est comme, ah, ça prend du temps avant que les choses arrivent. Mais non, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour pour le Seigneur. « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient. » Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. C'est ça le cœur de Dieu. C'est ça le cœur de Dieu. Donc, si je le sais, mon Dieu aime tout le monde. Il ne veut pas qu'aucun périsse. Mais qu'est-ce que je devrais faire? Certainement, quand le bateau de la révélation passe, je pourrais être là sur le côté, sur le quai, et dire, OK, le bateau de la révélation passe. Et puis, je vais rester là. Ou je peux dire, non, je vais embarquer dans le bateau de la révélation pour connaître ce que Dieu a prophétisé pour que je sois sur le bateau et être protégé sur le bateau de la révélation. Ça, c'est mon choix. Je peux embarquer sur le bateau et dire, Seigneur, je te remercie parce que tu te révèles à moi. Tu te révèles à moi. Et comme tu as fait en sorte que Noé soit protégé des fléaux qui venaient sur la terre, en même temps, Seigneur, toi, tu me dis que tu vas me protéger. Et c'est écrit dans la parole de Dieu. Comment? Gloire à Dieu. Donc, je peux dire, je veux embarquer sur le bateau de la révélation et être sécure en Christ. Amen. Sécure dans ma position dans le Seigneur. Et aussi, non seulement être dans le bateau, mais également aller chercher les gens pour qu'ils puissent embarquer dans le bateau avec moi. Ici, on ne parle pas embarquer dans une religion. Ici, on est en train de dire simplement proclamer la bonne nouvelle en Jésus. Vous savez, le message que nous avons, c'est un message, une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle que Jésus est venu nous libérer de l'esclavage. Pourquoi? Jésus est venu nous sauver, nous racheter de l'esclavage pour nous libérer. Ça, c'est le Jésus que nous servons. Il veut pas qu'on soit pris dans les griffes ou dans les chaînes. Il veut pas qu'on soit enchaîné par l'ennemi. Il a tout accompli pour qu'on soit totalement libéré. Et une fois libéré, on peut être un porte-parole de ce libérateur et dire, autrefois, j'étais enchaîné dans le péché. Autrefois, j'étais pris dans telle ou telle chose où j'étais malade. Mais Jésus est intervenu. Il est entré dans ma vie et Jésus a brisé les chaînes. Jésus m'a libéré. Jésus m'a guéri. Je me souviens une fois, mon épouse et moi, on était dans une rencontre avec des gens dans une religion. Et puis, on était là pour étudier la Bible avec eux. Ils voulaient avoir un temps d'étude avec nous. Puis, on a dit au tout début, écoutez, j'ai dit, nous, on n'est pas là pour argumenter. On veut pas argumenter la Bible avec vous. On veut juste vous laisser savoir que Dieu a un plan pour votre vie. Dieu a une destinée pour votre vie. Et on a étudié peut-être une heure ou deux, je me souviens plus trop. Mais après le temps d'étude, j'ai dit à la dame, j'ai dit, écoutez, même si vous ne recevez rien en ce moment de ce que je vous dis, peut-être ça va être dans 10 ans que Dieu va vous ramener à votre mémoire ce que je vous ai dit. Mais sachez ceci, Dieu vous aime. Dieu vous aime et Dieu a un plan et une destinée pour votre vie. Et comme j'ai dit ça, la femme a commencé à avoir les yeux pleins d'eau parce que l'amour de Dieu, c'est ça que les gens ont besoin d'entendre. Donc aujourd'hui, comme je suis en train de dire, il y a des choses qui se passent dans l'actualité. Les gens que vous côtoyez vont vous poser des questions. Ils vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce qui se passe? Si vous ne connaissez pas ce que la Bible dit, parce que vous dites, ben j'ai toujours eu peur de lire l'Apocalypse, vous ne serez pas équipé pour savoir comment répondre. Mais vous savez, Dieu nous dit de lire la parole de la révélation pour être heureux, mais aussi pour être capable de répondre et expliquer les phénomènes. On n'est pas surpris. Je ne suis pas surpris des choses qu'on voit de ce temps-ci. On écoute la télévision. Si vous n'écoutez pas la télévision, peut-être que vous ne savez même pas de quoi je parle aujourd'hui. Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, on peut être équipé pour être des porteurs de bonnes nouvelles, pour donner de l'espoir aux gens. Nous sommes les porteurs de la bonne nouvelle pour partager l'espoir en Jésus. Aujourd'hui, connaissez-vous vraiment le Seigneur Jésus à un tel point où vous pouvez donner de l'espoir à quelqu'un? Il y a du désespoir partout dans le monde dans lequel nous vivons, avec le taux de suicide super élevé, comme nous savons. Les gens sont vraiment confus, ils ne comprennent plus rien. Les gens se tournent à droite et à gauche, cherchent dans toutes sortes de religions, dans l'occultisme, dans le nouvel âge. Les gens cherchent Dieu. Ne pensez pas que les gens ne sont pas intéressés. La seule chose, les gens ne veulent pas la religion. C'est ça que les gens ne veulent pas. Les gens ne veulent pas de la religion, mais les gens ont une soif spirituelle. Et vous êtes les personnes, vous pouvez semer dans le cœur des gens la bonne nouvelle que Jésus les aime, que Jésus veut les protéger, que Jésus veut les délivrer. Ça, c'est notre privilège et c'est notre honneur en tant qu'ambassadeur de Christ. Là, c'est toute une décision. Est-ce que je veux vraiment recevoir le mandat divin? Est-ce que je vais embarquer sur le bateau de la révélation? Est-ce que je vais connaître cette révélation divine? Est-ce que je vais prendre le temps de connaître cette révélation-là? Ou est-ce que je vais croire le mensonge de l'ennemi que c'est pas important ou c'est pas pour moi, c'est juste pour quelqu'un d'autre, certains théologiens ou peut-être certains évangélistes comme Mario Mascotte qui va connaître et qui va me le dire un petit peu. Puis quand ça sera important, il me le dira. Ou est-ce que vous allez prendre la responsabilité personnelle et dire, moi, je suis un enfant de Dieu, un ambassadeur de Christ, et c'est mon devoir de connaître ce que Dieu a prophétisé. Parce que vous savez ce que Dieu a prophétisé? Je vais vous inviter, venez avec moi dans l'Apocalypse 21. Ça, c'est la partie la plus merveilleuse. La partie la plus merveilleuse que j'aime du livre de l'Apocalypse. Alléluia. Gloire à Dieu. Apocalypse 21. Ici, ça nous dit, en parlant de notre héritage. Vous savez, moi, je suis un ambassadeur de Christ. J'habite sur la terre, mais en fait, je suis un citoyen du ciel. Amen. Apocalypse 21, ici, Jean a vu quelque chose, une vision. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Voici, J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Ça, c'est ma portion. Gloire à Dieu, c'est pour nous. Amen. Et je termine avec deux passages des Écritures. Dans 1 Corinthiens 15, dans 3, je vais rajouter un verset. Dans le psaume 46, verset 2, il est écrit, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Gloire à Dieu. Dieu est pour nous un refuge. Connaissez-vous le Dieu de la Bible, frères et sœurs? Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il va venir secourir avant que les temps deviennent pires, frères et sœurs. Tout ce qu'on voit a été prophétisé à l'avance. Tout ce qu'on voit a été prophétisé à l'avance. Et dans la Bible, ça nous dit ceci, je vais terminer avec cela. 1 Corinthiens 15, verset 52, il est écrit « En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, je pourrais prêcher là-dessus, mais vous allez avoir le déjeuner pour ça. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. » Acceptez-vous de changer? Amen. 1 Thessaloniciens 4, verset 16 à 17, et 17. 1 Thessaloniciens 4, verset 16 et 17. Écoutez bien ceci. Vous savez, le film Left Behind, Nicolas Cage, l'acteur d'Hollywood, il fait le film Left Behind, qui va sortir le 3 octobre. J'ai hâte d'aller voir ce film-là. Je trouve ça assez intéressant que Hollywood même en parle des prophéties bibliques. Moi, je vais aller voir ce film-là, parce que c'est un film qui est concernant les choses qu'on est en train de vivre, justement, ou tout proche. Ici, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16 à 17, ça nous dit, « Car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. » Ici, là, le son de la trompette de Dieu, pour le peuple juif, ils comprennent justement, c'était la dernière trompette lors de la fête des trompettes. L'homme qui était choisi pour sonner la trompette, il prenait un grand souffle et puis il se mettait à souffler. Et puis c'était un souffle, c'était pas juste... C'est long, c'est aussi longtemps qu'il pouvait respirer. C'était une longue trompette, un long son de trompette. C'est-à-dire, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ici, ça nous dit que Dieu n'abandonnera jamais son peuple. Dieu n'abandonnera jamais son peuple. Si vous marchez avec Dieu, vous êtes fidèle, vous aimez le Seigneur, vous marchez avec lui dans l'intégrité, dans la pureté, ça ne veut pas dire que vous ne chutez jamais, ça ne veut pas dire que vous n'avez jamais de problème, mais quand vous chutez, vous vous relevez, vous demandez pardon au Seigneur pour vos péchés, et quand vous êtes là, vous marchez avec le Seigneur, Dieu a dit, il va venir secourir ses enfants. Et tout ce que vous allez lire dans la Bible, dans l'Apocalypse, les fléaux qui sont à venir, vous savez, non, ça ne me concerne pas. C'est pour ça qu'on peut être heureux. On peut être heureux, puis je peux dire, ça ne me concerne pas. Alléluia, ça ne me concerne pas. Moi, ce qui me concerne, c'est la main de Dieu qui me protège, qui me prend, et non seulement ça, qui m'emmène après, dans l'Apocalypse 21, qui dit, il va venir essuyer chaque larme de mes yeux. Ça me réjouit. Ça me réjouit, et ça me rend heureux, et je suis béni. Donc, si jamais vous avez dit, moi j'ai peur de lire l'Apocalypse, j'ai peur, je ne veux pas connaître, c'est parce que vous comprenez mal le livre. Vous comprenez mal. Vous pensez que c'est pour votre perte. Non, l'Apocalypse, c'est pour votre gain. Et ça va vous stimuler pour prêcher la bonne nouvelle aux gens que vous connaissez, pour qu'ils puissent avoir de l'espoir. Non, les nouvelles, là, tout ce que vous voyez, c'est pas ça la fin. C'est pas ça la fin. La fin, c'est glorieux. La fin, c'est avec Jésus. Et quand nous sommes avec Jésus, nous sommes avec le roi des rois. Et puis, c'est glorieux et merveilleux. Et pour cela, on peut être heureux. Amen. Amen. Je vais inviter l'équipe de la louange. Et on va juste prendre quelques temps. Je vais juste prier avec vous. On va prier ensemble. Père éternel, je te remercie, Saint-Dieu, pour ta parole. Seigneur, nous croyons que chaque page est importante. Nous croyons que chaque parole est importante. Et Saint-Dieu, peu importe le climat spirituel du monde dans lequel nous vivons. Saint-Dieu, peu importe le climat spirituel dans le monde de l'Église. Saint-Dieu, on décide et on croit dans ta parole. Nous croyons dans l'importance de ta parole et de ses avertissements prophétiques. Seigneur, nous croyons ta parole et pas Nostradamus et tous ces faux prophètes, les charlatans. Seigneur, nous croyons dans ta parole qui dit toujours la vérité. Et on te remercie, Seigneur, pour cette protection divine que tu nous accordes. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu as des projets de paix et non de malheur pour ton peuple. Merci, Seigneur, parce que véritablement, tu nous remplis de joie et de paix, sachant, Seigneur, que tu nous aimes à un tel point que tu vas nous secourir des fléaux qui arrivent dans ce monde. Merci, Seigneur Dieu, pour ton amour éternel. Et Seigneur, viens nous imbiber ce matin de ton amour pour qu'on puisse vraiment être des porte-paroles de ton amour dans ce monde. Pas pour faire peur aux gens, non, mais pour leur donner de l'espoir. Leur donner de l'espoir en Jésus. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu nous as pas offert une religion, mais tu nous as offert une relation vivante avec Christ. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Amen. Amen. S'il y a des gens ici que vous n'avez jamais fait de Jésus le Seigneur de votre vie, ou peut-être sur Internet, à la radio, si ça fait un moment que vous êtes là puis vous entendez parler de Jésus, vous entendez parler de la Bible, vous croyez, ah, ben oui, c'est bien, c'est bien. Mais si vous n'avez pas fait de Jésus le Seigneur de votre vie, les promesses de protection ne vous concernent pas encore, mais vous pouvez embarquer dans le bateau de la révélation aujourd'hui. Vous pouvez dire oui à Jésus. Vous pouvez dire oui, je m'abandonne aujourd'hui entre les mains de Dieu. Pendant qu'on penche les têtes maintenant, je vais vous demander, penchez vos têtes, fermez vos yeux. Pendant que chaque personne ici est là, pendant que vous êtes là aujourd'hui, en ce moment, l'Esprit de Dieu travaille dans les cœurs. Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent au salut. Ce n'est pas une question de religion ici, c'est une question de relation. Voulez-vous vraiment établir cette relation avec Jésus aujourd'hui? Si vous n'avez jamais dit oui à Jésus d'une façon officielle, ou vous avez dit oui, je t'invite à entrer dans mon cœur, dans ma vie, je te donne ma vie. Si vous ne l'avez jamais fait officiellement, j'aimerais vous demander de simplement lever la main là où vous êtes. Et je vais prier une prière avec vous et vous serez transféré du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Si vous ne l'avez jamais fait, vous pouvez écouter les nouvelles et avoir peur, mais Dieu ne vous appelle pas à avoir peur. Dieu vous appelle à être dans la paix, dans la joie. Et c'est une question de décision personnelle. Si vous êtes ici aujourd'hui, ce n'est pas une coïncidence. Dieu veut vous secourir, Dieu veut vous protéger et Dieu veut vous donner l'héritage des enfants de Dieu. Donc une dernière fois, si c'était votre dernière opportunité aujourd'hui de lever la main et dire « Oui, je veux Jésus dans ma vie. Je veux m'abandonner entre les mains de Dieu. Voici l'opportunité pour le faire. » Alléluia. Est-ce qu'il y a une ou plusieurs personnes? La Bible nous dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. On ne veut pas regretter ce moment. Alléluia. J'aimerais se prier pour les personnes sur l'Internet, à la radio. J'aimerais ça que vous puissiez tous répéter après moi, chaque personne ici, si vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie, j'aimerais ça que vous puissiez prier fort, que les gens en France, que les gens en Afrique, dans les îles, que partout à travers la francophonie, tous ceux qui entendent ce message puissent entendre des frères et des sœurs au Québec qui les appuient. Allez-vous le faire ce matin? J'aimerais ça qu'on prie maintenant. Répétez après moi, Père éternel, je réalise mon besoin de toi. Pardonne-moi de tous mes péchés. Je te donne ma vie. Prends ma vie et fais de ma vie un chef-d'œuvre pour ta gloire. J'ai pris au nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière avec sincérité et vous êtes vraiment abandonné entre les mains de Dieu, j'aimerais vous inviter à m'écrire en me contactant, en écrivant à info@evqmedia.com, info@evqmedia.com, et laissez-nous savoir que vous avez prié avec nous. Ce n'est pas une question d'une religion, c'est une question ici d'une relation où vous vous abandonnez entre les mains de Dieu et vous dites, je vais te faire confiance avec ma vie, je te donne ma vie. C'est plus moi le Seigneur de ma vie, c'est plus moi le chef de ma vie, c'est Jésus qui devient le chef. Et quand vous faites ça, vous êtes adopté dans la famille de Dieu et vous allez passer l'éternité avec la famille de Dieu, chaque enfant ici, chaque enfant de Dieu qui se sont donnés à Jésus. Est-ce qu'on peut donner une main d'applaudissement au Seigneur? Alléluia, gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, j'aimerais vous lire le psaume 91. Ça, c'est un passage des Écritures que j'aime beaucoup. Assure la paix de Dieu. Vous pouvez même sortir de votre Bible si vous voulez. Je vais vous lire le psaume 91 qui nous dit ici que Dieu fera l'exception pour vous. Il fera l'exception pour vous. Écoutez bien ceci. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant parce qu'on est proche de Dieu. Je dis à l'Éternel, je proclame de ma bouche, mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet du chasseur, de la peste et de ses ravages. Ebola ne me touchera pas. Alléluia. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit. On n'a pas peur d'aucune terreur. Amen. Voyez-vous le texte? Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras l'attribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à des anges, à ses anges, de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon, le serpent, toutes les choses du royaume des ténèbres. Puisqu'il m'aime, Dieu dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Mon nom, je connais le nom de Dieu, je connais mon héritage, je connais qui est mon Dieu. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Ça, c'est le psaume 91. C'est ça que je crois pour ma vie. Et je dis amen à cette parole pour ma vie. J'aimerais ça vous inviter de prendre vos bibles en vos mains. Hier, j'ai vu sur Internet, je ne sais pas si c'est dans quel pays, on donnait, c'est au Pakistan, on distribuait des bibles aux Pakistanais. Et on voyait les gens, il y avait un pasteur qui était là, j'imagine ce pasteur, un distributeur de bibles en tout cas, qui remettait des bibles à ses hommes et à ses femmes. Et les gens étaient comme ça, ils voulaient avoir une bible. Et puis on voit les gens heureux d'avoir leur bible. Je ne sais pas si vous l'avez vu cette semaine. Je vous ai déjà envoyé quand c'était en Chine, les gens recevaient une bible pour la première fois. Mais là au Pakistan, les gens recevaient leur première bible. Puis on voyait comment les gens étaient heureux d'avoir une bible. Savez-vous, si vous avez la bible, vous avez la parole de Dieu. Vous avez la vérité en vos mains. Vous avez la protection divine si vous croyez ce qui est écrit. Si vous lisez ce qui est écrit dans cette parole. Ce matin, j'aimerais ça qu'on loue le Seigneur pour sa parole, qu'on le remercie. Est-ce qu'on peut juste entrer dans un temps de remerciement? Ouvrez ouvrez votre bouche et dites merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur Dieu pour cette parole. Merci parce que tu ne nous laisses pas dans les ténèbres. Mais ta lumière, la lumière de ta parole, chasse les ténèbres. Ta lumière chasse les ténèbres. Merci Seigneur Dieu parce que je peux marcher dans la lumière à cause de ta parole qui est révélée par le Saint-Esprit. Merci Seigneur Dieu parce que nous vivons dans un pays où nous pouvons être libres de lire ta Bible. Merci Seigneur Dieu. Nous sommes reconnaissants d'avoir la révélation de ta parole. Ô Saint Dieu, nous te remercions pour ce grand privilège que nous avons d'avoir une Bible entre nos mains. Et merci Saint Dieu pour le désir et la soif que nous avons de la lire. Cette soif qui augmente de jour en jour, d'heure en heure. Notre soif augmente pour ta parole, pour la révélation de ta parole, pour les rémas que nous recevons. Alléluia, nous te remercions Saint Dieu pour cette parole que tu nous as laissée. Ton Saint-Esprit, l'Esprit Saint qui est ici, qui nous enseigne toutes choses, qui nous révèle. Alléluia, nous te remercions, Seigneur Dieu. Nous te remercions, Esprit du Dieu vivant, parce que tu nous accordes des révélations, même aujourd'hui, comme nous allons lire la parole à la maison, même aujourd'hui. Esprit de Dieu, merci pour la révélation que tu nous accordes de cette parole que tu as inspirée. Alléluia, nous te louons. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Père éternel, je te remercie pour mes frères et mes sœurs. Je te remercie pour les internautes partout à travers la francophonie. Toutes ces personnes qui ont reçu aujourd'hui le Seigneur Jésus dans leur cœur comme étant le Seigneur, le Maître de leur vie. Je te remercie pour ces personnes. Je te remercie pour chaque personne qui est ici, qui a reçu cette parole dans leur cœur. Je déclare que cette semence, que la semence de la parole tombe dans de bons cœurs. Au nom de Jésus, je déclare que c'est un bon terrain et cette semence va produire beaucoup de fruits pour le royaume de Dieu. Ce n'est pas une parole qui va être entendue et oubliée, mais cette parole va porter beaucoup de fruits pour le royaume de Dieu. Je déclare qu'il y a une armée qui se lève dans l'évangélisation. Je déclare qu'il y a une armée qui se lève, une armée de foi qui ne regarde pas juste à sa vie, terre à terre, mais qui regarde au-delà, qui voit avec des yeux prophétiques. Une armée de personnes qui se lèvent dans la sainteté. Une armée de personnes qui se lèvent avec le feu du Saint-Esprit, avec l'audace de Dieu pour proclamer la bonne nouvelle de Jésus. Merci Saint Dieu parce que tu ne nous as pas donné un esprit de timidité ou de crainte, mais de force, d'amour et de sagesse. Alléluia, merci Saint Dieu pour la promesse de ton retour, comme nous lisons dans ta parole. Merci Saint Dieu parce que tu viens secourir ton peuple. Alléluia, tu viens nous préserver du mal. Alléluia, gloire à toi Saint Jésus. Nous t'aimons Saint Jésus et nous te louons. Et je déclare sur chaque tête ici ce matin, le shalom de Dieu. Rien de manquant, rien de brisé au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit amen. Et amen. Est-ce qu'on peut acclamer ça une dernière fois? Amen. Amen. Soyez bénis, bon dimanche et à dimanche prochain.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.